le grain de sable. Pensée globale. Agir local. Le grain de sable. Le grain de sable, tous les jeux, enfin un jeudi sur deux de 18 à 19h. Alors aujourd'hui, on a plusieurs invités pour parler en fait d'un retour croisé de chez les paysans sans terre du Brésil. Parce que nos invités, et là je suis un peu dans une situation particulière parce que je fais aussi partie des invités dans le sens où je suis aussi de retour de chez les sans terre du Brésil. Alors d'une part, on a l'association des amis des paysans sans terre du Brésil, donc qui est partie ce printemps donc dans des acampamentos et assentamentos. On vous expliquera ce que c'est de sans terre. Et on a également un universitaire qui lui a passé un temps assez long l'année dernière, plusieurs mois, dans un campement dans le nord du Brésil. Donc ce que je vous propose, c'est déjà de présenter votre démarche, et après on reviendra sur ce fameux retour. Daniel, si tu veux commencer. Ouais.
Donc moi, je suis sociologue, sociologue de sociologie politique, on va dire, et je suis parti au Brésil, invité par l'université du Ceará, qui est dans le nord-est brésilien, avec l'objectif, entre autres, de mener une recherche, en fait, une étude exploratoire sur un campement que j'avais découvert en 2015, qui est un campement récent, qui est né en 2014, et où les gens se battent pour à la fois obtenir la terre, je l'expliquerai tout à l'heure, l'eau et contre la pollution. Donc voilà, en fait, j'ai vécu une partie, un peu de temps chez eux, j'ai fait des allers-retours entre la capitale et le campement pour essayer d'étudier ce qui se passe dans le campement, autour du campement, et comprendre les enjeux.
Et donc on a Solène et Christine, donc l'association des amis des paysans sans terre. Donc je vous propose de présenter rapidement l'association, notamment ses objectifs et très brièvement ses actions, parce qu'on y reviendra plutôt à la fin de l'émission, parce qu'on aime bien à la fin de l'émission se dire qu'est-ce qu'on peut faire, voilà, comment nous rejoindre, comment en savoir plus. Donc on vous présentera plus en détail les activités de l'association qui peut vous donner envie de la rejoindre, de donner des suggestions et d'y participer.
Bonjour, moi je suis Christine de l'association des paysans sans terre du Brésil. Donc l'objectif premier, c'est d'informer sur la situation des paysans sans terre au Brésil, en lien avec les problématiques rencontrées par l'agriculture paysanne française. On organise aussi et on participe à des conférences, des débats, des manifestations altermondialistes qui sont axées sur les enjeux de l'agriculture paysanne en Amérique du Sud et en France. Et puis après, on soutient les sans terre du Brésil. En accueillant des représentants brésiliens du MST dans le cadre d'échanges. Et puis on récolte aussi des fonds pour soutenir des projets. On y reviendra peut-être plus particulièrement à la fin avec le projet Verveine.
Voilà. Donc en fait, une solidarité qui est autant sur une aide financière que sur un soutien, on peut dire, politique et international. Exactement. Et de l'information. Voilà. Donc ce que je vous propose, c'est de vous présenter le mouvement des sans terre, parce que voilà, on est les amis des sans terre, mais pourquoi les soutenons-nous? Alors le mouvement des sans terre, en fait, c'est plus largement aussi qu'un mouvement lié à l'agriculture, un mouvement social, et considéré aujourd'hui comme un des plus importants en Amérique latine, donc qui a été créé en 1984. Alors comme à peu près à la même époque ont été créés d'autres institutions ou structures importantes qui sont le Parti des Travailleurs, et la CUT, donc le principal syndicat brésilien. Il faut aussi replacer ça dans le contexte. 1984, c'est la fin de la dictature. Enfin, le Brésil est sous une dictature depuis 20 ans. Donc depuis les années 70, elle a quand même commencé à s'étioler et s'affaiblir. Mais on a vu que justement, pendant cette période-là, et en raison aussi de la réaction à la dictature, des mouvements sociaux se sont renforcés, ont grandi et se sont créés. Alors l'objectif du mouvement des sans terre, c'est avant tout la lutte contre les inégalités, et qui passe par un accès à la terre qui correspond aussi à un accès au travail et donc à des ressources pour subvenir à ses besoins, et également plus largement la question de la justice sociale et de la démocratie. Alors, il faut rappeler aussi le Brésil qui est un pays très inégalitaire, puisqu'on dit souvent qu'il y a environ 47% des terres arables qui appartiennent à 1% de la population, avec une industrie une agriculture qui est en fait surtout une industrie agroalimentaire qui est complètement tournée vers l'exportation, la monoculture, les agrocarburants, donc qui n'est pas là pour nourrir le pays, qui a aussi une histoire qui date de la colonisation, avec des fazendeiros, des grandes colonies, une propriété de la terre qui était quasi féodale, et avec également une exploitation de la terre qui était aussi une exploitation de l'homme avec l'esclavage. Donc je ne vais pas forcément vous refaire toute l'histoire, mais on voit bien la colonisation, une oligarchie, l'esclavage, et l'esclavage qui a été aboli assez tard au Brésil en 1888, et cette libération des esclaves, elle a aussi créé des pauvres, des personnes sans travail, des travailleurs pauvres qui ont dû aller travailler ou notamment chez les grands propriétaires terriens, avec souvent un travail journalier, donc très précaire. Et ce qui a créé aussi un fort exode rural, notamment vers le sud et les grandes villes du sud du pays. Il faut voir que le Brésil, on parle d'agriculture, mais il y a un pays qui vit en forte majorité en ville, aujourd'hui à plus de 80%, alors que dans les années 40, la population urbaine représentait 20%. Donc il s'est urbanisé très vite, avec aussi donc une forte déstructuration et du milieu rural, et une construction assez déstructurée aussi du milieu urbain. Et donc c'est un pays aussi très inégal, qui a le malheur d'être riche, notamment parce qu'il a des ressources naturelles abondantes, et qui sont très convoitées et souvent appropriées par le pouvoir. Et donc c'est dans ce contexte-là que s'est créé le mouvement des sans-terres. Je rappelle quelques chiffres aussi sur la concentration des terres. Entre 2010 et 2014, les surfaces des terres possédées par les grands propriétaires ont augmenté de 2,5%, ce qui représente à l'échelle du Brésil quand même 6 millions d'hectares, et on a près de 176 millions d'hectares qui sont non productifs au Brésil. Donc comment a commencé aussi la lutte des paysans sans terre ? C'est demander la réforme agraire, c'est-à-dire une redistribution des terres. Et le mouvement des paysans sans terre, en fait, revendique l'application tout bêtement de la Constitution du Brésil, la Constitution notamment de 1988, Constitution qui s'est faite au retour à la démocratie du Brésil. Et dans cette Constitution, dans son article 184, il est écrit que l'Union, puisque le Brésil est un pays fédéral, doit désapproprier toutes les terres qui n'ont pas d'utilité sociale et les redistribuer. Donc la fonction sociale, l'utilité sociale, elle se définit notamment par rapport à des seuils de productivité qui en fait n'ont pas été revus depuis très longtemps et sont relativement faibles. L'expropriation peut aussi avoir comme motif des dettes fiscales, et on a pu avoir des exemples de grands propriétaires qui avaient des dettes fiscales qui dépassaient de loin d'ailleurs le prix de la terre qui pouvait être expropriée. Et il y a également le cas du travail esclave, effectivement, qui est encore une réalité au Brésil, même s'il est parfois difficile à prouver.
Ou l'usage de faux titres de propriété aussi.
Oui. Ah oui, je suis tombée sur un article en révisant pour cette émission, donc un article brésilien qui disait qu'il y a quand même 38 millions d'hectares cadastrés qui dépassent la surface totale du pays. Donc ce qui veut bien dire quand même qu'il y a, il y a des petits arrangements ou des doubles comptes.
Avec des faux titres de propriété vieillis artificiellement.
C'est ce qu'on appelle le grillage. C'est qu'on mettait les titres de propriété dans des tiroirs avec des grillons, et avec le vieillissement, le fait que les grillons mangeaient un petit peu.
Les excréments,
et puis on se retrouvait avec un papier qui avait pris 50 voire 100 ans assez facilement. Et donc, alors le MST, qu'est-ce qu'il représente ? Donc, il représente à peu près, on va dire, environ 500 000 familles qui ont réussi à avoir des terres régularisées grâce au mouvement. Et également, aujourd'hui, nous environ 100 000 familles qui sont encore en attente de terres dans des campements. Alors, pour revenir un peu sur l'histoire, donc naissance officielle en 1985, donc je vous ai expliqué sur quelle base il s'appuyait. Notamment sur l'application de la réforme agraire. Maintenant, on va passer à leur forme d'action. Et là, en plus, on pourra vous en parler plus en termes de retour de terrain, puisqu'on a été dans ces acampamentos ou assentamentos dont je vous parlais. Donc, un acampamento, ça correspond à une occupation de terre. C'est vraiment la forme d'action. Et dès le départ, dès le premier congrès en 1984, juste avant la création du mouvement des sans-terres, c'était vraiment ça. Notre lutte, ce sera occuper les terres. Alors, ça a un caractère provisoire et très précaire. Hein. Vous avez peut-être déjà entendu parler des grandes bâches noires. On est vraiment dans un peu le bidonville à la campagne, puisqu'il faut savoir qu'on peut être expulsé, que c'est pas encore le lieu où on va produire et s'installer. Donc, on a généralement de quoi avoir quelques cultures vivrières, mais pas beaucoup plus. Mais c'est quand même un endroit où on risque d'y rester longtemps. On y reviendra. Donc, où sont construites des écoles. Et ça peut souvent rassembler plusieurs centaines de familles. Alors ça se fait pas forcément sur la terre qu'on veut occuper, parce que c'est de plus en plus difficile, parce que les grands propriétaires aussi ont des milices, les terres sont surveillées, gardées par des hommes en armes. Mais c'est surtout aussi le but, c'est faire pression. Donc on a aussi des conditions qui sont très dures, au bord de route, voilà, des lieux avec la pollution, pas d'ombre, et des possibilités de planter dans des terres qui sont pas du tout faites pour ça. Voilà. Et on, ouais, comme je vous disais, on a environ 100 000 familles dans plusieurs centaines d'accampamentos aujourd'hui au Brésil. Et le deuxième lieu de vie des paysans sans terre, c'est l'assentamento. Donc ça, c'est une fois qu'on a la terre, qu'elle a été expropriée et régularisée, ben on s'installe et c'est une sorte de colonie agraire. Sachant qu'on ne fonctionne pas avec des titres de propriété, il y a un institut fédéral du gouvernement brésilien qui s'appelle l'INCRA, qui est l'Institut National de la Colonisation et de la Réforme Agraire, qui donne des droits d'usage et non pas des titres de propriété. Mais on y reviendra parce que c'est quelque chose qui est remis en cause et qui peut mettre en danger justement le côté collectif du mouvement. Je propose à Daniel de nous raconter son expérience, et puis ça permettra peut-être de revenir aussi sur, je ne vais pas vous faire un cours d'une demi-heure sur les paysans sans terre, et si vous avez des compléments à faire, n'hésitez pas.
Oui, mais je peux peut-être parler du campement. Alors en fait, pour parler du campement, je suis obligé de parler un peu de la région. C'est une situation particulière, un peu différente de ce que tu as présenté, parce que la terre qui est occupée est cultivable, et il y a de l'eau. Alors en fait, on est sur un plateau au nord-est du Brésil, un plateau dans ce qu'on appelle le Sertão, une région semi-aride, mais il se trouve sous ce plateau, il y a beaucoup d'eau. Et donc le gouvernement fédéral a décidé... le premier projet dans les années 80, mais après, comme tous les projets étatiques, ça prend du temps, de faire des zones d'irrigation sur toute la région, en pompant l'eau dans le sous-sol, etc. Et avec la promesse de redistribuer les terres à la fois à des grandes entreprises pour le développement agricole, à la fois à des entreprises moyennes et puis aux tout petits paysans. Et ce mouvement de construction de zones d'irrigation a contribué à expulser les petits paysans qui n'avaient pas de titre de propriété officielle, comme c'est souvent le cas au Brésil, en disant « vous retrouverez des terres un peu plus tard ». De fait, très peu retrouvaient des terres. Donc ils ont installé ce bassin d'irrigation, et en fait ce sont des grandes, très grandes entreprises qui se sont installées, des grandes entreprises nationales comme Frutacor, pour en citer une qui est connue, et qui est liée à un crime en plus, local, dont je parlerai tout à l'heure, et puis l'entreprise multinationale Delmonte, qui vend des boîtes de fruits au sirop et autres exotiques dans toutes nos grandes surfaces.
On peut trouver ici, mais qu'on va éviter.
Ben voilà, en tout cas je n'achète plus depuis que... voilà. Et donc ces entreprises cette appropriation des terres a eu trois conséquences. Une conséquence sur la terre, sur l'eau et sur la pollution. Alors sur la terre, je l'ai dit, les paysans, beaucoup d'entre eux ont perdu des terres et beaucoup sont allés vivre en ville, dans la capitale, dans des bidonvilles, etc., dans des favelas. Sur l'eau, les conséquences sont assez dramatiques, puisqu'il y a de l'eau sous terre dans cette région. Mais les grandes entreprises ont créé un nombre de puits incalculable. On n'arrive pas à les compter complètement. Un très grand nombre de puits, et des puits qui descendent très profond, jusqu'à 1000 mètres. Et aujourd'hui, on parle de machines qui iraient à 1500 mètres sous terre. Ils ont créé un barrage au bas du plateau, avec une usine qui remonte l'eau sur le plateau pour produire des bananes, des pastèques, des melons, etc. Et même d'ailleurs un élevage de crevettes, ce qui est tout à fait adapté à une zone semi-aride, n'est-ce pas? Et le résultat, c'est que ces dernières années, c'est 14 millions de mètres cubes qui sont balancés pour la grande industrie agricole, et c'est 4 millions de plus que ce que la nappe phréatique peut supporter pour se renouveler. Donc on a une baisse constante de l'eau dans la région.
Et on n'a aucun contrôle de la part de l'État de vérifier la nappe, de dire alerte, là on
Alors,
arrête.
Théoriquement, il y a un département qui s'appelle le département de la sécheresse, qui en fait est propriétaire de la... enfin s'occupe de la zone d'irrigation, mais de fait, qui a créé une commission de surveillance de l'eau, mais dans cette commission de surveillance de l'eau ne siègent que les grandes entreprises. Donc, de fait, elles font complètement ce qu'elles veulent. Alors, pour situer la situation des petits paysans qui ont quand même des bouts de terre, avant de parler du campement, eux, ils ont des puits à 40 mètres de profondeur, donc ils n'ont plus d'eau. Ils peuvent plus exploiter.
Donc, les puits sont à sec
pour la plupart d'entre eux, parce que ça dépend un tout petit peu où ils se situent, mais la plupart d'entre eux. Alors, il y a la saison des pluies pendant un moment où ça se remplit, et puis dès qu'il arrive, maintenant, quoi, il n'y a plus rien. Complètement plus rien.
Sachant que tu parlais de la saison des pluies, donc nous on a été aussi dans ce coin, certains ont dit que ça fait 6-7 ans qu'il n'y a pas eu de véritable saison des pluies et qu'il n'y a pas eu véritablement un hiver digne de ce nom qui permet aussi de recréer...
En plus, il y a de nouvelles périodes de sécheresse plus longues. Hein. Alors, compliqué, parce que quand on arrive là où j'étais, sur la côte, il pleut énormément au mois d'avril, donc on se dit, tiens, ça doit être bien. Mais en fait, il suffit de reculer de 50, 80 km à l'intérieur des terres pour qu'il ne pleut plus, quoi. Donc en fait, c'est aujourd'hui une catastrophe sur l'eau. Donc l'eau, très rapidement, pour en venir au campement, alors la pollution, parce que les grandes entreprises, pendant longtemps, aujourd'hui elles ne le font plus pour des raisons économiques, ont pulvérisé toutes les bananeraies, notamment à l'aide de pesticides. Et donc le combat, un des combats là-bas, c'est contre ce qu'ils appellent les agrotoxiques, qui détruisent. Il y a un nombre de cancers qui est beaucoup plus élevé, 38% supérieur aux autres zones de l'État. Les animaux morts, il y a un village dans lequel je suis allé qui s'est vu recouvert de poudre blanche un jour parce qu'un avion est passé un peu trop à l'écart de la bananeraie. Donc les poules, les chiens, tout le monde, enfin tous les animaux sont morts et les gens ont de grandes maladies, beaucoup de malformations. Il y a d'ailleurs, ça pourrait être intéressant de le mettre sur le site, il y a d'ailleurs un film qui est en cours de création qui montre un peu ça, des enfants qui naissent mal formés. Voilà. Bref, donc si je raccourcis, ça a créé un mouvement, et ce mouvement a été notamment porté par un paysan, un ouvrier paysan d'une communauté locale qui a accumulé des dossiers à l'aide d'universitaires sur la question de la terre, de l'eau et surtout de la pollution.
Et là, on était déjà dans le cadre de membres du mouvement des paysans sans terre ou ça s'est fait...
Non, alors c'est aussi une des particularités du campement, c'est que le mouvement, c'est pas un campement au départ... uniquement du mouvement des sans-terres. Ça s'est raccroché par la suite. C'est un peu plus large.
Mais il arrive qu'il y ait des campements qui soient... où il y a aussi également l'association des petits agriculteurs...
Ou même la CUT, dont tu parlais,
à
des campements. Ouais. Mais ils ne sont pas dans les... d'après ce que disent les gens du mouvement des sans-terres, ils ne sont pas dans les mêmes logiques. Par exemple, la CUT a plus négocié avec le gouvernement de Lula et moins occupé que ce que disent... Enfin, c'est ce que dit encore le mouvement des sans-terres. Il y a des débats entre eux. Et donc... pour ne pas parler trop longtemps, ce militant qui s'appelait Zé Maria Dotomé a été assassiné le 21 avril 2010 d'une vingtaine de balles alors qu'il a été menacé depuis longtemps. Et on sait aujourd'hui qu'un des protagonistes de l'assassinat est un des fils d'une des grandes entreprises de la région. Donc c'était clairement un assassinat politique. Ce qui a arrêté le début de mobilisation qu'il y avait localement pendant un temps, parce que tous les gens de la région étaient tétanisés, avaient peur, jusqu'à ce que, à la fois les universitaires de la petite faculté locale, le mouvement des sans-terres, effectivement, mais aussi la Caritas, donc les catholiques porteurs de la théologie de la libération, créent un mouvement qui s'appelle le mouvement 21, pour commémorer la date, et décident d'occuper au mois de mai 2014 une zone, alors qui pour le coup... très rapidement, n'est pas une zone de terre qui appartient à un grand propriétaire, c'est une zone qui appartient au département de la sécheresse, donc au département fédéral, qui est dans la zone d'irrigation, qui est revendiquée par les grandes entreprises, mais c'est une zone de terre tout à fait fertile, et les occupants ont eu l'intelligence de se mettre autour d'un canal d'irrigation. Donc s'ils restent, ils pourront y vivre. Et ils produisent déjà, d'ailleurs.
Ce que tu dis aussi, quand on parle réforme agraire, il y a l'expropriation de propriété privée, improductive, mais il y a également, et malheureusement, c'est un peu la réforme agraire appliquée par les gouvernements, elle s'est plutôt faite dans la solution de facilité, c'est de redistribuer des terres qui appartiennent au gouvernement fédéral. Ouais. Sachant qu'il y a quand même souvent la difficulté de voir que des grands propriétaires... revendiquent ces terres avec aussi des principes de titre de propriété... qui sort dans ces eaux. Voilà. Donc, y a...
Là, ils ne les revendiquent pas, les grandes entreprises ne les revendiquent pas comme terre à eux, mais comme terre faisant partie du bassin d'irrigation et devant être redistribuée comme les autres, et donc du coup redistribuée aux grandes entreprises. Donc ils les revendiquent pour les exploiter, pas pour les avoir en titre de propriété. Mais ça revient exactement au même. Alors, je ne sais pas ce que je peux développer un peu. Donc, c'est un campement de... Alors, aujourd'hui, il y a 130 familles, parce que, comme c'est... Effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, c'est quand même précaire. C'est difficile de vivre dans un campement. On ne sait jamais jusqu'à quand on va y être. Il y a des menaces. Quand j'y étais, la police est venue plusieurs fois. Les bataillons de choc au Brésil, il y a des bataillons de choc.
C'est l'équivalent un peu des CRS de chez nous.
Quand on les voit, méchant. Je trouve que ça fait plus impressionnant.
Ils font même plus
c'est la police militaire avec le bataillon de choc, la police militaire. Donc, ils viennent sous plein de prétextes. Là, il a pris le prétexte la veille de mes visites qu'il y aurait des prisonniers qui seraient échappés, qui seraient réfugiés dans le campement. Donc, ils impressionnent. Et puis, on en avait parlé il y a quelque temps, il y a eu récemment un jugement, alors que la régularisation du campement était en cours, il y a eu un jugement demandant que le campement soit évacué, qui a été contredit par un autre jugement, donc c'est vraiment une situation précaire, incertaine. Donc aujourd'hui, il y a 130 familles qui vivent localement.
Je vous propose une pause musicale.
Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu, você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você amanhã de ser outro dia, eu pergunto a você onde vai se esconder da enorme euforia. Como vai proibir quando o galo insistir encantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento, vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. O jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar, vendo o dia raiar, sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir, que esse dia há de vir antes do que você pensa. Apesar de você, apesar de você. Poesia. Como vai se explicar vendo o céu clarear de repente impunemente? Como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente? Apesar de você, apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Você vai se dar mal, etc e tal, laraiá, laraiá. Laraiá, laraiá, laraiá.
d'écouter Chico Buarque et Apesar de Você, donc une chanson, on a parlé tout à l'heure de la dictature, qui était justement une critique déguisée de la dictature, en faisant comme si une femme nous avait quittés, c'était une vraie emmerdeuse et on est très content de s'être débarrassé d'elle, et en fait derrière il fallait y voir la dictature. Donc on revient au Brésil, on y était toujours avec la musique et avec donc Daniel Tin qui nous racontait donc ce qu'il a vu et vécu dans le campement du Ceará l'année dernière.
Alors, je vais peut-être juste ajouter, parce qu'il y a d'autres choses à dire sur le mouvement des sans-terre, qu'en fait, c'est un campement qui n'est pas uniquement lié au mouvement des sans-terre, puisque c'est une conjonction de mouvements avec notamment le diocèse local, donc, qui est très, très militant. Toujours intéressant pour quelqu'un qui vient de France de voir un prêtre qui a un discours, on dirait, besancenot, à peu près.
Oui, mais il y a beaucoup d'influence par la théologie de la libération au niveau du Brésil.
Oui, les commissions pastorales de la terre qui étaient un petit peu, en gros, le syndicat rural, parce que c'était assez difficile dans les endroits où les gens sont isolés de s'organiser. Et puis, pendant la dictature, il y a eu les prêtres rouges, effectivement.
Oui, certaines occupations de terre, d'ailleurs, avaient pu commencer, si j'ai bien lu, avant le mouvement des sans-terres officiels, y compris liées aux commissions pastorales, etc. Donc là, il y a ça, et puis il y a ce comme ça que j'ai connu le campement, c'est qu'en fait, il y a une petite faculté dépendant de l'université d'État locale où, on va dire, 75% des étudiants et des profs sont tous engagés dans le mouvement qui s'appelle le mouvement 21 et qui agissent auprès du campement, mobilisent des avocats quand il y a des recours. Donc c'est une configuration un peu particulière. Il y a le mouvement des sans-terres. Une des difficultés peut-être du mouvement des sans-terre par rapport à ce que vous avez pu observer, vous, c'est qu'ils n'avaient pas de militants qui se sont installés. Donc il y a des jeunes habitants occupants qui se sont formés, mais c'était vraiment des militants débutants. Donc les militants chevronnés du mouvement des sans-terre venaient de l'extérieur. Donc ce qui crée un certain nombre de difficultés, notamment pour parvenir à créer une vie qui soit un peu une vie collective dans le campement. Puisque toutes les familles qui viennent n'ont pas toujours l'esprit de mener une vie collective. Certaines veulent simplement un bout de terre. Et voilà. Donc quand je suis parti, il y avait un peu cette tension autour de l'avenir du campement, à la fois à cause de est-ce qu'on va rester ou pas, mais aussi est-ce qu'on va réussir à créer une agriculture un peu collective, ou est-ce que chacun va cultiver son bout de terre et reproduire en petit ce que font les grandes entreprises. C'était le débat qu'il y avait.
C'est vrai que cette période de vie dans les campements, c'est aussi considéré un peu comme une formation, je pense, pour le mouvement des sans-terres, pour permettre aux gens de s'auto-organiser, d'apprendre à vivre ensemble et de voir, de définir les règles et notamment les règles de vie dans le futur assentamento par la suite. Donc c'est vrai que c'est un moment fort de conscientisation qui nécessite aussi du coup l'aide de personnes plus anciennes avec plus d'expérience, de personnes, de camarades, de l'assentamento d'à côté qui peut venir régulièrement. Nous, c'est des choses dont on s'est énormément rendu compte dans les campements où on a été en fait.
Mais qu'il y a une solidarité aussi, elle pourrait aider aussi à impulser et puis des gens qui ont un esprit politique ou qui ont été formés, on en parlera aussi dans les écoles, ce qu'on appelle les cadres du mouvement. Et cette solidarité, elle passe aussi par affréter des bus pour aller assister aux grandes marches ou aux grandes manifestations. Effectivement, on a souvent vu des acampamento pas très loin d'un assentamento où il y a une aide. C'est aussi montrer que quand on aura sa terre, faudra pas oublier que tout le monde, même dans l'acampamento, va l'avoir. Tu vois, il y a 100 familles, on sait que la régularisation, elle va en toucher 30. Donc c'est comment aussi on garde ce lien et cette solidarité après, et qu'on n'est pas dans le chacun pour soi, alors qu'on a vécu cette expérience collective.
Ça, je pense que c'est un des grands enjeux pour le mouvement, quoi, de parvenir à transformer ce qui est une revendication de terre en quelque chose qui, à la fois un esprit collectif, et puis en même temps, aujourd'hui, moi je trouve que c'est très, très important de voir ça, c'est qu'aujourd'hui, ils sont quand même dans l'idée d'une autre agriculture, avec une agriculture qu'ils appellent organique, qu'on peut appeler bio si on veut, une agriculture durable, pour reprendre une expression un peu classique, ce qui, à mon avis, n'était pas nécessairement l'objectif de départ. Le départ, c'était la terre. Et progressivement, il me semble qu'on a vu ça, et c'est très présent dans le campement là où j'étais, ce discours sur on veut produire une agriculture qui soit sans produits toxiques, etc. Mais ça demande un temps, surtout en plus dans la région, puisque la terre est déjà imbibée. Donc ça demande un temps long, quoi.
Mais c'est sûr que là, le MST a régulièrement des mots d'ordre. Un des premiers mots d'ordre, c'était occuper, résister, produire. Mmh. Et le dernier mot d'ordre du dernier congrès qui a eu lieu en 2014, c'était une réforme agraire populaire, où effectivement, en disant, on lutte pour la réforme agraire, mais c'est pour un changement global de la société, c'est pour permettre à l'agriculture familiale de nourrir le Brésil en entier, de dire que les villes sont concernées aussi, de pouvoir faire alliance avec les mouvements sociaux des villes, comme les mouvements des sans-toits, au niveau international aussi, avec la Via Campesina, justement pour promouvoir une agriculture familiale à petite échelle et le plus possible bio.
Mais cet enjeu, bon, on le voit à grande échelle, mais aussi à petite échelle, c'est de passer d'une posture de lutte à une posture de construction, voilà, de devenir un acteur de la société et plus forcément, alors, pas un paria, mais quelqu'un qui vit quand même dans des conditions très précaires et qui ne sont pas celles de la production. Et tu disais qu'il n'y avait pas de militants des sans-terres anciens, mais ce qu'on voit aussi, c'est que même les accampamentos qu'on a pu voir, notamment quand ils ne sont pas très loin d'une ville, il y a aussi beaucoup de gens qui retournent à la terre, parce qu'après, notamment là, après 3 ans de crise très très forte, alors crise du logement, crise du chômage, il y a aussi beaucoup de gens pour qui ça devient un moyen de survivre, et mais aussi de retrouver sa dignité et un rôle dans la société.
C'était le cas d'un des jeunes habitants qui est devenu militant, qui était formé dans l'école du mouvement des sans-terres du CRA, qui en fait, lui, venait de la ville. Il avait quitté la capitale parce que les conditions de vie pour lui et ses enfants étaient insupportables. Et donc, il a décidé de retourner à la terre. Alors, il y a des éléments dans son histoire qui montrent qu'en fait, il retourne après que ses parents aient vécu l'exode rural.
Oui, en fait, il y en a beaucoup qui avaient quand même une famille. Comme on le disait dans les années 40, de toute façon, 80% des Brésiliens vivaient dans le milieu rural. Donc, c'est toujours, on a toujours un grand-père, voire des parents qui étaient dans le milieu rural.
Pour donner un exemple, dans le CRA, donc l'État où se situe ma recherche, la capitale, jusqu'aux années 80, c'était 1 million d'habitants. C'est 6 millions maintenant. Et en fait, après notamment une période de sécheresse à la fin des années 80, où les gens sont tous... une grande partie est descendue au bord de la mer ou à la capitale pour tenter de survivre. Donc c'est même des immigrations très récentes, finalement, années 80. Par rapport à l'objectif du mouvement des sans-terres, j'ai entendu aussi des militants en lien avec la ville dire que pouvoir maintenir les gens dans la terre, sur place, ça évitait de créer des favelas. C'est-à-dire qu'il y avait aussi un lien avec cette misère, avec l'idée on se retrouve dans les favelas parce qu'on ne peut plus vivre sur place. Mm-hmm. Et je trouve que c'est intéressant. Petit à petit, c'est un mouvement qui petit à petit s'est élargi, quoi, au-delà de la question de la revendication de la terre.
Oui, c'est le bien vivre à la campagne aussi, ouais, en fait. C'est comment s'inclure dans un territoire, pouvoir y permettre d'y développer des écoles, des postes de santé, l'accès à la culture, au sport, pour vraiment développer la vie au niveau des campagnes, quoi.
Et c'est vrai, en gros, et comme ça touche à la ville aussi, parce qu'on parlait de comment aussi ne pas créer ou gonfler les favelas, c'est vraiment se poser la question de l'aménagement du Brésil dans son ensemble. Et effectivement, on voit aussi que des campements de sans-terres, et notamment après quand ils sont sous forme d'assentamento, ça fait revivre aussi des espaces. Parce qu'il y a.
Ça recrée une dynamique,
ça recrée
sur
des écoles.
Le
ça recrée une vraie vie de production. On ne va pas juste à l'usine, pouvant être un grand propriétaire qui vous prend ou qui ne vous prend pas, parce qu'il y a souvent le travail journalier, donc on attend au bord de la route, et puis un jour c'est bon, on va bosser, et puis un jour on va sur le bord de la route.
Alors bon, peut-être ajouter que plus globalement, moi ce qui m'a un peu touché quand j'étais là-bas, outre la lutte locale, c'est en fait les liens avec des choses beaucoup plus globales. Parce que lorsqu'ils se battent pour arrêter l'exploitation de l'eau, comme c'est dans la région, en fait, ils se battent contre une logique qui est, on prend toute l'eau jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, qui se passe ailleurs d'ailleurs. Hein, j'ai vu des articles sur l'Algérie où on est en train de faire la même chose, et puis quand il n'y en a plus, on met l'entreprise ailleurs. Donc les salariés suivent ou ne suivent pas, ils n'ont plus rien, et surtout il n'y a plus d'eau. Et donc la terre est devenue stérile, on a balancé un tas de produits dessus. Donc c'est en fait, on voit bien que c'est... Enfin moi j'avais vraiment ce sentiment sur place que j'étais sur quelque chose de local, mais que ça concernait même ma vie de français peinard, plutôt confortable en France, puisqu'au fond ça touche la question des ressources, quoi.
Et du court terme, les entreprises elles s'installent, et j'imagine que quand elles auront complètement vidé cette nappe...
Ils iront voir ailleurs.
Ah bah oui, mais ça a déjà commencé. Hein. J'ai fait des entretiens dans une famille, ils ont perdu leur terre une première fois, on a pollué leur, une partie de la terre qui restait, le mari il s'est fait embaucher dans une bananeraie, et quand je l'ai rencontré, il n'avait plus d'emploi, parce que la bananeraie, n'ayant plus d'eau, est allée se déplacer un peu plus loin. Donc c'est, dès maintenant, ils commencent déjà à laisser des terres, quoi.
Oui, paradoxalement, nous expliquait que du coup aussi, quand des fois les paysans occupaient des terres pour négocier avec le propriétaire, en fait, c'était des fois les négociations étaient très faciles et pouvaient se faire très rapidement parce que le propriétaire terrien, en fait, reçoit quand même une indemnisation financière de par l'État pour laisser sa terre. Et en fait, certains avaient une assez bonne indemnisation par rapport à la terre qu'ils laissaient, effectivement totalement épuisée, sur laquelle on ne pouvait plus rien produire. Et ça leur permettait, cette indemnisation, d'aller racheter de la terre ailleurs et de recontinuer ailleurs. Donc en fait, des fois, c'était même gagnant, on a l'impression que, voilà, qu'on concède de la terre aux paysans, alors qu'en fait, c'est même encore une plus-value pour le grand propriétaire ou pour les multinationales maintenant, parce qu'effectivement, ça a un petit peu changé au niveau de la configuration, quoi. C'est plus contre un grand propriétaire terrien assez ancien, voilà, dans la tradition, et que maintenant, c'est plus contre des multinationales.
Ouais. Oui, on a eu un exemple. Le grand propriétaire avait pu racheter avec son indemnisation le double de terre dans, dans une région plus fertile. Donc, c'est...
Alors c'est sans doute pour ça que dans la région où j'étais pour le campement, les multinationales pour l'instant ne cèdent pas parce que pour l'instant c'est fertile et il y a encore de l'eau. Et donc l'enjeu est important. Peut-être que si c'était complètement épuisé, ils renonceraient, ce ne serait pas difficile pour eux, même ils y gagneraient. Quoi.
Et surtout qu'il y avait certains qui valorisaient aussi les installations qu'ils avaient mises. Ça pouvait être de l'irrigation ou un puits. Donc ils seraient capables en plus de revendre la terre plus chère parce qu'ils ont fait un puits qui va jusqu'à 500 mètres, même s'il n'y a plus d'eau en dessous.
Et sur l'eau, ça me vient maintenant, ça a des conséquences au-delà des paysans parce que c'est pas une capitale, enfin... comment on pourrait appeler ça ici, le chef-lieu de canton, un peu l'équivalent qui est à côté, a des problèmes d'eau régulièrement. Parce qu'en fait, toute l'eau vient de ce bassin. Donc, ça a des effets en cascade comme ça qui touchent tout le monde. Ce qui fait d'ailleurs, en tout cas localement, il y a une relative solidarité des gens de la petite ville par rapport au campement. Quoi. Un peu de. Parce qu'ils sont. D'abord, ils sont tous liés à l'agriculture, plus ou moins. Et aussi parce que la question de l'eau, ben, les concerne sans arrêt. Ils voient le barrage où de temps en temps ils allaient se baigner, où il y a de moins en moins d'eau. Ils voient qu'ils n'ont pas d'eau dans leur ville, etc.
Et tu parlais d'un mouvement qui était quand même assez large, alors qu'il y a quand même eu des morts. Est-ce qu'il y a aussi une peur de s'engager avec la menace
Alors il y a eu visiblement cette peur très forte juste après l'assassinat de Zemaria Dotome. Aujourd'hui, en tout cas dans son village, qui n'est pas très loin du campement, il y a une partie des gens qui ne bougent pas. Voilà. Et puis on a d'autres... notamment, je pense à une femme que j'ai longuement interviewée, qui, elle, est très engagée, mais elle essaye de ne pas passer dans les médias, elle est présente régulièrement, mais cette méfiance reste là, quoi. Elle est présente, elle est connue un peu localement, mais elle ne se met pas trop en avant, elle me le dit, quoi, parce qu'elle a cette peur-là, quoi. Mais en même temps, petit à petit, ça s'est élargi le mouvement à des syndicats agricoles, par exemple. Pas tous, mais certains. Donc, j'allais dire, la force a redonné un peu confiance, quoi. L'assassinat est de 2010. Depuis, il y a un mouvement qui s'est quand même élargi. Il y a un comité, j'ai assisté à la création d'un comité populaire de l'eau, avec plusieurs organisations. Donc, ça s'organise progressivement. Avec l'idée non seulement de lutter pour l'eau, mais en plus de faire un travail de recherche avec les universitaires locaux, par exemple pour comptabiliser le nombre de puits, puisqu'ils n'arrivent pas à le savoir. Donc comme il y a un certain nombre des petits paysans sont à la fois petits paysans et parfois travaillent dans les grandes exploitations comme ouvriers pour survivre, eh bien chacun était chargé de cartographier, de compter.
Les espions.
Et avec des géographes qui étaient là et des spécialistes de l'eau. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est cette alliance avec des chercheurs, entre des chercheurs et le mouvement, qui m'a semblé très très fort. Quoi. Et puis en plus, le fait de ne pas laisser les chercheurs tout seuls chercher, mais en l'occurrence, demander aux gens de se mobiliser, de faire une cartographie. Donc pour l'instant, en tout cas pendant que j'y étais, c'est pas l'apport que j'ai le plus vu. J'ai plus vu un mouvement en train de prendre un peu de l'ampleur. Mais la menace est toujours présente, ça c'est clair.
Mais en fait, tout à l'heure, on parlait lutte et puis passer à un autre stade plus, plus constructif. Mais au départ, le mouvement des sans-terre, il y avait la criminalisation du mouvement était très forte. Et en gros, quand s'est créée l'association des amis, la relation se faisait plus par rapport quasiment du plaidoyer international, du soutien par rapport à les menaces d'État.
Oui, il y a des assassinats réguliers. Ça avait été aussi suite au massacre d'Eldorado dos Carajás de 1996, où il y a eu 21 paysans sans terre qui ont été assassinés. Et qui a d'ailleurs donné lieu, c'était le 17 avril 1996, et ça a donné lieu du coup à la création de la journée nationale des luttes paysannes à ce moment-là. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, le MST avait besoin d'écho à l'international, de soutien à l'international, et ça s'est développé comme ça dans chaque pays où, nous on est un comité d'amis au mouvement des paysans sans terre du Brésil, et il existe des comités de soutien dans différents pays d'Europe et du reste du monde. Il y en a aussi aux États-Unis, au Canada, ils ont tout un grand réseau aussi à l'international. C'est quelque chose qu'ils savent aussi bien cultiver, parce qu'ils savent bien que leur lutte ne peut avoir aussi de résonance et ne peut maintenir certainement par la durée aussi en ayant des liens avec tout le monde. Ils sont aussi à la base de la création de la Via Campesina pour permettre de mettre en réseau tous les syndicats paysans du monde entier et, d'internationaliser la lutte.
Et c'est vrai que même si les gouvernements successifs du PT, notamment le gouvernement Lula, n'ont pas eu des résultats extraordinaires en termes de redistribution des terres, donc d'application de la réforme agraire, il y a quand même eu une baisse de ces menaces et de ces attaques.
Il y avait des relations plus apaisées.
Les relations étaient apaisées.
La criminalisation
recommence.
Suite au coup d'État, là, on a vu, on n'a pas compté, on ne peut pas vous donner des chiffres précis, mais on a vu quand même des offensives très fortes. Notamment, il y a 10 paysans sans terre qui ont été, lors d'une expulsion, tués par la police le week-end de l'Ascension, donc il y a très peu de temps, et il y a eu d'autres. Ça se compte déjà en dizaines depuis le début de l'année. Donc, il y a vraiment une recrudescence.
Il y a une certaine impunité qui revient de la part des grands propriétaires terriens au niveau de l'assassinat de leaders. Il y a eu aussi des prisonniers politiques au niveau du mouvement du sans terre. Il y a eu plus d'une dizaine, il doit y avoir une quinzaine de personnes qui ont été emprisonnées aussi pour des raisons politiques et qui ont été heureusement, grâce à l'action d'avocats, qui est le mouvement des sans terre, qui ont été libérés en attendant
le
jugement.
Il y a eu une campagne aussi qui a été soutenue à l'international. Et qu'on a
c'est des choses qui avaient lieu il y a plus d'une dizaine d'années en arrière et qui reviennent maintenant et qui nécessitent qu'on fasse attention et qu'on se remobilise aussi par rapport à ça.
Et qui ne concernent pas que les sans terre, parce que le leader du mouvement des sans toit était aussi arrêté deux, trois fois,
sachant que le chef d'accusation, en plus, est tout simplement leader d'une organisation criminelle ou terroriste, parce que le Brésil a aussi sa loi terroriste qui date, je crois, de 2015 et sur laquelle s'appuie aujourd'hui nouveau gouvernement.
Avec, alors là, pour le coup, une ambiguïté des différents gouvernements du Parti des Travailleurs, il faut quand même le dire, parce que la loi, même s'il n'avait pas la majorité à l'Assemblée, la loi sur le terrorisme, c'est quand même sous le gouvernement, la présidence de Dilma, donc c'est un peu ambigu.
Oui. Après, il y a aussi en faire usage contre qui.
Tout à fait.
On peut avoir les mêmes soucis ici, d'ailleurs.
Je suis bien d'accord.
Je vous propose une autre pause musicale avant de conclure sur ce passionnant sujet.
étions toujours au Brésil avec Coco Reis de Arco Verde, donc la musique du Nord-Est, donc du pays, enfin de la région où était Daniel, et une des régions qu'on a visitées aussi en ce début d'année. Donc on est toujours notre retour des Sans Terre. Alors les amis, l'association Les Amis des Paysans Sans Terre, donc on est parti à 5. Alors je vous laisse présenter aussi pourquoi on est parti, quels objectifs on avait. Être amis des Paysans Sans Terre.
Donc on est parti, c'était un peu une voyage d'une délégation, voilà, de militants d'associations qui est partie au Brésil pour rencontrer du coup le MST dans sa réalité quotidienne, son organisation aussi sur le terrain. On est parti une quinzaine de jours, alors on a quand même pas mal voyagé, on a rencontré plusieurs campements et plusieurs assentamentos dans deux états différents du Brésil, ce qui a fait qu'on est resté à chaque fois que 2 à 3 jours dans les campements, donc on a un petit peu survolé, mais voilà, le but c'était aussi de les rencontrer, de pouvoir échanger avec eux et de pouvoir créer de possibles projets dans le futur.
Oui, c'était chose aussi faire voilà. Avec en les connaissant et en connaissant leurs besoins et pas avoir une immersion qui nous permet aussi de mieux relayer les informations et les luttes et avoir des actions plus efficaces.
Oui, puis parce que beaucoup d'entre nous n'étaient pas forcément allés au Brésil non plus et n'avaient jamais rencontré le mouvement des Sans Terre, donc c'était important aussi de pouvoir concrétiser comment ça se
passe. Et on a eu en plus l'opportunité, par l'organisation qu'on nous a proposée, de voir des situations complètement différentes. De voir que, effectivement, ce mouvement, comme tu disais, tu n'as pas forcément vu aussi des choses qu'on a ressenties, mais il y a des situations très difficiles suivant les régions, suivant l'âge aussi des campements.
C'est ça, l'ancienneté, les problèmes juridiques.
Oui. On a commencé du coup rapidement le voyage par l'État de São Paulo. Où on a été alors tout d'abord reçu dans l'école nationale Florestan Fernandez du mouvement des Sans Terre, qui est une école de formation des cadres et des militants du mouvement, qui s'adresse aux militants donc du mouvement des Sans Terre, mais aussi des autres mouvements sociaux du Brésil et d'Amérique latine, et qui dernièrement continue à s'ouvrir aussi avec la mise en place de cours en anglais pour permettre à des étudiants de mouvements sociaux d'autres pays, comme des étudiants d'Haïti aussi,
d'Afrique,
de Palestine, voilà, d'être présents et de participer à ce cours-là. C'est une école voilà, qui donne des cours de théorie politique, d'histoire des luttes en Amérique latine, d'histoire des luttes paysannes, avec des professeurs d'université qui viennent donner ces cours-là gratuitement, en fait. Donc c'est vrai que nous, ça nous a permis d'avoir un petit peu des cours aussi sur l'histoire du MST, voilà, leur organisation.
Son organisation aussi.
Voilà, ça nous a permis de voir aussi l'importance de l'éducation au niveau du mouvement des Sans Terre, à savoir que à partir du moment où le mouvement occupe une terre et qu'il dresse un campement, tout de suite il met en place aussi une école pour pouvoir permettre aux enfants d'aller à l'école, aux personnes adultes qui sont analphabètes de pouvoir apprendre à lire et à écrire, et après dans les autres écoles de formation de pouvoir se former aussi à des cours un petit peu plus politiques et puis un petit peu plus techniques aussi pour tout ce qui concerne la formation agricole et voilà. Ensuite on a été pendant quelques jours du coup dans un campement qui était le campement Alexandra Kulontai, qui existait depuis 9 ans, donc assez long, hein, une lutte assez difficile, où ils ont été expulsés plusieurs fois, ils sont revenus plusieurs fois occuper la terre, et là actuellement ils sont sur des terres de l'assentamento d'à côté, pour pouvoir continuer à être là, et à pouvoir mettre la pression, mais voilà, c'est pas une terre improductive. Ils
mais
visent
même en
du coup
dans
d'autres
une terre,
terres plus loin.
Dans une terre où on peut pas les expulser. On est vraiment dans une situation conflictuelle et précaire parce qu'on a quand même, on est entouré par les fazendas de canne à sucre tout autour avec
une milice régulière qui vient, qui fait des tours, qui fait que le campement est fermé à l'entrée et à sa sortie avec une petite guérite où il y a des personnes, il y a une barrière qui ouvre la barrière. On doit montrer patte blanche et dire qui on est, pourquoi on est là. Il y a des rondes de nuit organisées tout le temps. Et c'est vrai qu'on ressent quand même une certaine anxiété, une certaine angoisse par rapport à une violence qui pourrait venir de l'extérieur.
C'est juste sur la question de la fermeture, c'est la même chose dans le campement où j'étais, c'est-à-dire qu'il y a des gardes en permanence.
Alors que nous, on a vu d'autres campements où ce n'était pas du tout cet esprit-là, et je pense que les relations étaient beaucoup plus apaisées avec le propriétaire, avec...
Il y avait des gardes, donc il fallait... Surtout au début où mon portugais était moyen, il fallait chaque fois que j'expliquais bien qui j'allais. Ouais, donc c'était fermé aussi.
Alors qu'à savoir qu'à l'intérieur même du campement, en général, la violence n'est pas admise. Mmh. Et c'est vrai que c'est des lieux hyper tranquilles au niveau de la vie, où il n'y a pas de violence, où il n'y a pas de vol, où toutes les portes sont ouvertes, où tout le monde... une certaine...
Ça ne veut pas dire que, dans, comme il nous disait, on est une famille, comme dans toutes les familles, il peut y avoir des heurts ou des...
Voilà. Soucis, mais du coup, ça montrait aussi un petit peu la difficulté de cette vie-là et les fluctuations. C'était un campement, donc 9 ans avant, où il y avait 400 familles au départ, et maintenant, ils ne sont plus que dans les 190 familles en attente pour la régularisation. Et à savoir qu'il doit y avoir, sur ces 190 familles, je crois, 6 ou 7 familles qui sont là depuis 9 ans. En fait, ce sont des familles qui sont arrivées dans les 4 dernières années. En fait, ça tourne. Je pense que la difficulté de la vie sur le campement fait que, au bout d'un moment, les gens, au bout de 5-6 ans d'attente, pensent que ça n'arrivera jamais et partent, du coup.
Là, il y avait aussi pas mal de gens qui étaient venus de la ville Riberto Preto et qui sont venus dans le campement parce qu'ils n'ont plus de travail et que les loyers en ville, c'est très cher. Et...
La difficulté aussi, c'est que dans le campement, on n'a pas forcément la place pour produire et pour vivre. Donc, en fait, c'est des gens qui font aussi des allers-retours ou qui vont travailler dans la fazenda d'à côté ou dans la Saint-Amanto. Il y en avait qui travaillaient dans la Saint-Amanto d'à côté aussi. Mais voilà, il faut quand même être là pour occuper, puisque c'est quand même l'occupation qui fait pression et qui évite qu'on se fasse déborder.
L'occupation, et du coup aussi, on leur demande parfois de cultiver la terre pour pouvoir... Il y a des campements avec des règles assez strictes où on demande aux gens parfois de pouvoir résider tout le temps dans le campement. On a vu des différences en fait dans les différents campements. Certains campements, les personnes devaient résider tous les jours, d'autres devaient revenir quand même plusieurs fois. Certains campements, il fallait absolument cultiver la terre avec des personnes à côté qui venaient un petit peu voir effectivement si à chaque fois les terres étaient bien cultivées, ou d'autres campements où c'était plus collectif, où il y avait des jardins collectifs pour apprendre à cultiver la terre aussi. C'est vrai qu'on a vu des réalités très différentes. Et après, on est parti dans l'état du CRJP, dans le même endroit à côté de là où toi tu étais. Une zone aussi semi-aride où on a été voir des assentamento dans lequel il y a des coopératives de production qui se sont organisées, où on a pu nous participer à une coopérative de production de gâteaux, où on a travaillé pendant 2 jours. C'était une coopérative de femmes qui ont pu, parce qu'il existe aussi différents programmes de financement par les gouvernements pour les femmes, pour pouvoir monter leurs projets. Donc là, elles avaient fait une coopérative de gâteaux. Et ces gâteaux étaient après redistribués dans les écoles ou dans les hôpitaux de la région.
Oui, et ça, c'est aussi parce qu'il y a une loi qui demande à ce que les institutions achètent au moins 30% de produits issus de l'agriculture familiale. Alors, avec le nouveau gouvernement, ces choses-là pourraient être mises en cause. Parce que, comme on se disait, il faut passer de la lutte à le fait de devenir un acteur de la production. Et ce n'est pas évident, parce qu'à la rigueur, produire, c'est facile. Enfin, ils savent planter. Transformer, ça, ils y arrivent encore avec des aides, notamment de l'INCRA, de l'Institut de la Réforme Agraire. Mais après, trouver des débouchés, rentrer dans le milieu de la commercialisation, c'est aussi quelque chose de complexe. Et l'accès au crédit est aussi un vrai enjeu, parce qu'on se rend compte que c'est quand même plutôt les grandes entreprises qui ont accès à des crédits pour pouvoir s'outiller en
matériel. Parce que ça, c'est la lutte pour l'accès à la terre, mais après, c'est la lutte pour rester sur la terre, pour pouvoir avoir des outils pour cultiver la terre, pour produire, pour s'organiser, pour développer le système de production. Je vois qu'il ne reste pas. Alors, je ne sais pas sur quoi
Faut peut-être dire dans les évolutions que... On a parlé plusieurs fois de l'INCRA, et que l'INCRA dépendait d'un ministère qui était un ministère de l'agriculture familiale, en quelque sorte. Il y avait 2 ministères. Un ministère des ruralistes, donc des grandes entreprises. Ça, c'était avec le gouvernement Lula et Dilma. Et que le nouveau gouvernement a tout fondu, en fait, sous la coupe de ministères dirigés par les grandes entreprises. Donc l'INCRA, maintenant, est aussi un peu brimé, tenu par le ministère des grandes exploitations, quoi. Et donc, en termes de financement, d'aide, je pense que ça a beaucoup compliqué les choses.
Le dernier campement où nous, on a été, effectivement, qui existe depuis 1 an et demi, il nous disait qu'il n'y avait pas de difficulté particulière avec le propriétaire, que le propriétaire voulait vendre, mais que là, c'était plutôt au niveau de la procédure, justement, de vente et de régularisation, que ça prenait du temps. Alors, ils espéraient quand même pouvoir rapidement... accéder, alors pour une partie, parce que c'était 90 familles, je crois que c'est 35 familles qui pourront avoir accès à la terre, mais voilà, que c'était bloqué, pas tant au niveau du propriétaire, là, pour le coup, mais plus au niveau de la procédure et de l'État.
Oui, les avocats doivent se faire pas mal d'argent sur la question de terre. Ce que je propose sur les deux petites minutes qui nous restent, c'est, comme on l'avait promis au début, c'est d'évoquer le projet Verveine, aussi parce qu'il est lié, notamment la production de cette année, notre production sera liée à un campement dans lequel on est allé, et puis parce que c'est un moyen de venir nous voir et de nous rejoindre.
Alors effectivement, on a le projet Verveine solidaire qui existe depuis 2003, grâce au partenariat avec un paysan de la Confédération paysanne qui est Dominique Vianney, dans le sud de Lyon, à Chaussan exactement, qui nous prête un petit bout de terre et qui nous permet de planter de la verveine. Donc on plante au mois de mai, on la désherbe pendant l'été, on la récolte au mois de septembre et après cette verveine, elle est séchée et on la met en sachet. Alors on fait ça dans un lieu public. Au bar de l'autre côté du pont, tous les premiers mardis de chaque mois. Donc là, ça s'est arrêté, ça s'arrête pendant les vacances, puis ça en reprendra en septembre ou en octobre. Voilà, on a choisi ce lieu parce que c'est un lieu public aussi, parce que justement, on est là sur l'estrade avec nos cartons de verveine et ça interroge les gens et ils viennent nous voir et ça nous permet dans ce cadre-là de donner aussi de l'information sur les centaires. Et après, la vente de cette verveine permet de pouvoir soutenir des projets en lien, des projets du mouvement des centaires. On a été en lien beaucoup avec un état dans lequel on n'a pas été, qui était l'état du Paraná, voilà, où on a soutenu beaucoup de campements avec, au tout départ, l'achat de vaches laitières, de semences, de matériel agricole, justement. Après, on a aussi soutenu plus des projets culturels, la possibilité pour les jeunes d'un assentamento de pouvoir faire un CD ou l'achat d'instruments de musique aussi. Ces derniers temps, on a
projet agroforestier aussi.
Voilà.
Donc, il y a un nouveau mode de production écologique.
Et ainsi que l'école nationale. Et là, suite à notre voyage, on a décidé de pouvoir soutenir l'accampamento Juan Borges, qui est à côté d'Aracajou, qui est donc, qui est un an et demi d'existence. On est en lien là avec eux pour voir quel type de projet ils souhaiteraient pouvoir développer pour que nous, on puisse soutenir. Donc, ce sera la vente de la verveine participera au financement de ce futur projet.
Voilà, donc on a pu, suite à ce voyage, on n'était pas forcément parti avec.
Non, dans l'idée de.
Avec cette idée-là. Oui, mais bon, ça s'est fait.
Particulièrement touché par ce campement-là, par leur accueil et l'énergie qui s'en dégageait aussi.
Et parce justement aussi la question collective qu'ils avaient vraiment réussi à mettre en place. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'assentamentos et d'accampamentos dans le Sergipe. Donc il y avait des liens, il y a un peu des grands frères, qui sont allés plus loin. Et puis c'est vrai, comme il était jeune, avec beaucoup d'enfants, aussi beaucoup d'espoir aussi d'avoir une régularisation. Donc c'est vrai que ça change tout. C'est des gens aussi qui sont beaucoup plus mobilisés et qui ont aussi envie de faire leurs preuves. Donc je sais cultiver et je pourrai continuer par la suite. Donc c'est... Et sur le coup de 19h01, nous avons un peu dépassé, mais nous ne sommes pas poussés par l'émission suivante, ce qui semble que le Canu Info ne soit pas là. Mais on va en profiter quand même pour saluer notre émission, l'autre émission qui est le jeudi, tous les 15 jours, en alternance avec nous. Puisqu'un petit clin d'œil, puisque c'est l'émission Paysans et Paysannes dans la lutte des classes. C'est pas qu'on leur pique leur sujet, mais des fois, on fait des trucs.
Mais d'ailleurs, j'avais vu une pub de leur part où c'est une photo de Sébastien Salgado qui c'est sur, je crois, l'arrivée dans une occupation de terre. Du mouvement des paysans sans terre du Brésil.
Ouais, c'est vrai,
leur image,
sur leur flyer. Voilà, donc on les salue. Et le grain de sable va pas forcément aller rejoindre ses copains à la plage, on ne sait pas encore, mais sera en vacances. Et donc on se retrouvera au mois de septembre.
WTO, here's the promise. Don't, don't, WTO!